J'aimerais parler sur la tentation d'abandonner Dieu. Dans Jérémie, chapitre 2 et au verset 13, il est écrit « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté ?» ou né dans la maison. Pourquoi donc devient-il une proie? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris, et ils ravagent son pays. Ses villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Noph et de Tachpanès te briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras, tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Amen. Nous connaissons tous des chrétiens qui ont un temps suivi le Seigneur et puis qui ont lâché la main de Dieu, qui ont abandonné le Seigneur et qui sont retournés dans le monde. Ils étaient même parfois investis dans des services, ils pouvaient avoir des responsabilités, ils pouvaient même être des modèles pour les autres, mais ils ont tout lâché et sont retournés à leurs occupations qu'ils avaient même avant de connaître le Seigneur. Et peut-être, il vous est même arrivé à vous-même d'avoir la pensée d'abandonner le Seigneur, de repartir en arrière parce que vous avez été usé, fatigué, parce que vous avez été malade, parce que vous avez été découragé par une attitude d'un chrétien, d'une chrétienne qui vous a blessé, parce que vous avez été déçu de Dieu, parce que Dieu n'a pas répondu comme vous le vouliez à la prière. Et la tentation, c'est d'abandonner, de lâcher la main de Dieu. Pourquoi certains abandonnent-ils Dieu? Quels sont les pièges qui sont sur notre route que Satan a placés pour nous faire abandonner Dieu? Il nous faut être vigilants et persévérer jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça, c'est notre part et nous devons tenir ferme jusqu'à notre dernier jour et jusqu'au retour du Seigneur. Le premier point que je voulais voir avec vous, c'est d'abord l'œuvre du tentateur dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10. C'est Paul qui dit ceci. « Or, à vous qui pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Une autre traduction dit ceci, « Afin que nous ne soyons pas dupes de Satan, car nous n'ignorons pas ses intentions. » Voilà que Paul nous avertit sur notre adversaire qui, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il s'efforce de nuire aux enfants de Dieu. C'est lui, nous n'ignorons pas ses desseins. Alors il s'approchera de vous, on le voit dans le récit de la tentation. Le texte dit que le diable s'étant approché de Jésus, il s'approche pour tenter. Beaucoup de chrétiens pensent que maintenant que je suis chrétien, le diable va me laisser tranquille. Satan va se tenir à l'écart. Mais on voit qu'il s'est approché de Jésus. On voit qu'il a eu l'audace de s'approcher de Jésus. S'il l'a fait pour Jésus, il essaiera de le faire pour chacun de nous. Pourquoi s'approche-t-il? Bien pour semer des mauvaises pensées, des pensées de doute, des pensées d'incrédulité, des pensées qui nous éloignent de Dieu. Il l'a fait pour Pierre, par exemple, quand il a semé dans la pensée de Pierre d'arrêter Jésus lorsqu'il voulait aller à la croix et qu'il annonçait son sacrifice. Il va vous semer des pensées pour vous détourner de Dieu. Il va semer des pensées pour vous donner des mauvais conseils, pour vous égarer, pour vous perdre dans le monde, pour vous attacher aux choses futiles de ce monde. Ça, c'est l'œuvre du tentateur. Donc, Paul nous rappelle que nous avons un ennemi numéro un qui s'appelle Satan et que nous devons être vigilants à son égard parce qu'il fera tout pour nous faire abandonner le Seigneur. Deuxièmement, Satan nous montrera toujours la difficulté de la situation présente. C'est-à-dire qu'il vous encouragera à regarder en arrière, à votre passé, à regretter le passé. Luc 9, 62, c'est Jésus qui dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Voilà ce que l'ennemi désire faire pour chaque croyant, c'est nous faire regarder en arrière, nous faire regretter le passé. Et on pense au passé et on trouve qu'autrefois, c'était mieux et on avait moins de problèmes et puis finalement, on s'en sortait mieux, etc. Alors, regarder dans le passé, ça peut être utile pour en tirer des leçons. Mais il ne faut pas regarder dans le passé pour regretter notre marche avec le Seigneur. On a besoin quelquefois, quand on conduit la voiture, de regarder dans le rétroviseur pour voir qu'est-ce qui se passe derrière. Mais il ne faut pas conduire en regardant tout le temps dans le rétroviseur, sinon on va prendre tous les murs. Et lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, il a regardé dans le passé. Il a regretté les moments où il était en Égypte. Il a regretté les poissons. Il dit à Moïse, mais quand nous étions en Égypte, nous avions des poissons, nous avions des concombres, nous avions des melons, nous avions des poireaux, et puis des oignons, de quoi faire une belle soupe. Ça, c'était le passé. Mais aujourd'hui, il voit le désert, il voit la manne, toujours la manne, il regrette ce qu'ils ont connu en Égypte. Mais qu'est-ce qu'ils étaient en Égypte? Ils étaient des esclaves. Ils regrettent le passé, ils regrettent certains éléments matériels, mais ils oublient qu'ils étaient sous le joug de Pharaon. Et ils devaient construire des pyramides, ils devaient travailler comme des esclaves. Il ne faut pas oublier qu'on était sous le joug de l'adversaire. Il ne faut pas juste regarder, comme le peuple, les avantages qu'ils ont connus un temps. Ils ont oublié vite les souffrances. Mais il vaut mieux une situation difficile avec Dieu qu'une situation d'abondance sans Dieu. Parce que si vous êtes avec Dieu, vous avez tout, frères et sœurs. Mais si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, même si vous avez les concombres, vous avez les melons, vous avez les poissons, vous avez les poireaux, vous avez les oignons, de quoi faire une bonne soupe. Mais si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, tout cela, c'est vanité. Ça ne comblera pas votre cœur. Un autre élément, c'est que Satan vous laissera toujours entrevoir un avenir meilleur en dehors du chemin de Dieu. Il l'a fait avec Ève et Adam lors de la tentation, en montrant à Ève, « Mais si vous prenez du fruit, vous serez comme des dieux. » Il fait croire à Ève un avenir meilleur, alors que Dieu l'a défendu. Lorsque le tentateur s'approche de Jésus, pareil, il lui fait croire un avenir meilleur en disant « Si tu te prosternes et si tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses, c'est-à-dire les richesses et les biens de ce monde. » Mais le diable, il donne jamais contre rien, il y a une contrepartie. Jésus n'a pas voulu faire cette alliance. Le diable est un menteur, il est père du mensonge, il peut vous promettre des bien matériel, des places, des positions, mais la contrepartie est là, vous vous engagez, vous vous liez. C'est pourquoi Jésus l'a rejeté dans Matthieu chapitre 4, verset 10, et c'est ce que nous devons faire quand il vient nous tenter par ses biens matériels, ses sollicitations ou ses places qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Ça, c'est la position de l'enfant de Dieu. Nous ne faisons pas de compromis. Les promesses du diable, elles sont mensonges. Nous croyons la parole de Dieu et donc nous disons comme Jésus, « Retire-toi, Satan. » Ce sont des pensées vaines, des pensées humaines, des pensées du monde. Un autre point, c'est que Satan vous dévalorisera toujours. Il vous montrera que vous n'en valez pas la peine, que personne ne s'intéresse à vous, que Dieu même ne répond pas à vos prières, qu'il ne s'occupe pas de vous, et vous feriez mieux d'abandonner. Il montrera toutes les raisons valables pour lesquelles vous êtes misérable et incapable. Et il arrive même à faire croire à certains qu'ils n'ont pas de valeur. Vous n'avez pas de valeur. Que la vie même n'en vaut pas la peine et que si vous mouriez, vous seriez plus en paix. Tout ça, ce sont des mensonges. Parce que si vous lisez la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 6, verset 26, regardez ce que Jésus dit par rapport à notre valeur. Jésus nous invite à regarder les oiseaux. Alors les oiseaux, on pourrait dire les animaux. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Et regardez la fin. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Alors on peut dire ce matin que nous valons déjà beaucoup plus que tous les animaux de la terre. Parce que les scientifiques ont voulu réduire l'homme à un animal évolué, mais Jésus dit non, au contraire. Vous n'êtes pas dans la rangée des animaux, vous êtes au-dessus, vous valez beaucoup plus que ça. C'est la valeur de l'être humain, c'est notre valeur que nous avons en tant qu'être humain, nous valons beaucoup plus. Et ça, ce n'est pas le message que le monde véhicule. Ça, c'est le message de la parole de Dieu. Et nous croyons que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus, son Fils, afin de mourir à la croix pour nous racheter. Il ne l'a pas fait pour les animaux, il ne l'a pas fait pour le reste de la création, il ne l'a même pas fait pour les anges. Il l'a fait pour les êtres humains parce que nous avons une grande valeur à ses yeux. Donc, rappelons-nous, quand des pensées de dévalorisation viennent nous assaillir, tu ne vaux rien, tu n'en vaux pas la peine, tu t'en sortiras pas. Tout ça, c'est des mensonges. Et rappelons-nous les paroles de Jésus, tu as de la valeur, tu vaux plus que tout le reste de la création parce que Dieu a un plan particulier pour ta vie. Rappelons-nous ces bonnes paroles qui nous rappellent ce que nous valons aux yeux de Dieu. Un deuxième point maintenant, c'est qu'est-ce que les croyants vont abandonner? Qu'est-ce qu'ils peuvent abandonner? Je reviens au texte de Jérémie qu'on a lu au début, chapitre 2. Et le verset 13. Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Alors Dieu déjà remarque ici que son peuple a commis un double péché, deux fautes. La première, abandonner Dieu. La deuxième, se creuser des citernes crevassées. Concernant l'abandon de Dieu, Dieu dit, vous m'avez abandonné, moi qui suis la seule source d'eau vive. Il n'y a que Dieu qui peut nous désaltérer dans le désert de ce monde. C'est la seule source d'eau vive, une source spirituelle. Il n'y a pas de distractions qui vont vous désaltérer comme Dieu. Il n'y a pas de plaisir de ce monde. Rien ne pourra vous combler. Seul Dieu est la source d'eau vive qui va combler votre âme. Et on a besoin de cette eau pure. Voyez, le monde, il déverse une eau souillée en permanence pour abreuver l'âme des gens. Et la plupart, ils n'ont que ça. Mais nous connaissons la seule source d'eau vive. C'est pour ça que nous avons raison de venir à Dieu. Lui va combler votre âme. Il va vous donner cette eau spirituelle et pure, la parole de Dieu qui va vous fortifier. Mais premier péché, ils ont abandonné Dieu, alors que c'est la seule source d'eau vive. Et puis ils se sont creusés leur propre citerne pour chercher leur eau. Alors c'est quoi une citerne? C'est vous avez creusé dans le sol pour chercher une eau. Mais cette eau, elle ne sera jamais aussi pure que celle de Dieu. Vous cherchez dans le monde, vous cherchez à satisfaire votre âme. Mais c'est des citernes crevassées, c'est-à-dire que cette eau-là ne tiendra pas et ne vous désaltérera pas. C'est-à-dire que vous allez semer, mais vous n'allez pas récolter. Ce que vous allez profiter ne va pas combler votre vie, c'est crevassé, ça s'enfuit. Et si vous abandonnez Dieu, il y aura toujours des conséquences. Je viens au verset 17, toujours dans notre texte de Jérémie. Chapitre 2, car ne t'arrive-t-il pas, cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie. Voilà la conséquence. Ils ont abandonné Dieu, pourtant Dieu les dirigeait sur la bonne voie, dans la bonne direction pour les sauver, pour les bénir, mais ils ont préféré abandonner Dieu et ils se sont égarés. Donc la conséquence, si vous abandonnez Dieu, vous allez vous égarer dans le monde. Et notre responsabilité, c'est toujours de revenir à la parole de Dieu, de veiller, de prier, d'être en communion avec Dieu. On sait très bien qu'avec le temps, un certain relâchement peut s'introduire. Et ça, c'est à nous de veiller. C'est-à-dire, nous devons être disciplinés, nous devons être des disciples à l'école de Christ. C'est arrivé à des croyants avant nous. Vous voyez l'église d'Éphèse qui est mentionnée dans les sept églises de l'Apocalypse. Jésus mentionne certaines de ses qualités, mais il dit « ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour ». Ils avaient pris de la distance avec leur ferveur, leur foi en Dieu. Et tout cela avait généré une église qui s'était renfermée sur elle-même, qui s'était donc isolée. Alors on vient de moins en moins souvent, on a abandonné le premier amour, alors on refroidit spirituellement, la crainte de Dieu disparaît progressivement, on n'aime plus trop la communion avec les frères et sœurs. Ça, c'est que on a abandonné le premier amour. Et c'est pour ça que Jésus demande à cette église de se réveiller et de ne pas laisser le sommeil de la mort l'éloigner et la faire périr. Ensuite, après l'abandon de Dieu, qui est un piège, c'est l'abandon de Jésus dans Matthieu chapitre 26, verset 56. C'est arrivé aux disciples. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent, il s'agit de Jésus, et ils prirent la fuite. Ah, les disciples, ils ont quand même suivi 3 ans le Seigneur, ils ont bénéficié de ses enseignements, ils ont connu son amour, sa grâce, ses miracles, les guérisons, ils ont vu sa puissance, ils ont vu sa gloire, tout. Je pense que sincèrement, aucun des disciples ne pensait un jour abandonner le Seigneur, parce qu'ils étaient déterminés à le suivre jusqu'au bout. Mais quand Jésus a donné sa vie, qu'il a prié à Gethsémané, puis qu'il a été arrêté par les soldats, la Bible dit que tous l'ont abandonné. Jamais ils n'auraient pensé que ça arriverait, jamais ils n'auraient pensé que Jésus serait arrêté, qu'il serait crucifié, mais tous l'ont abandonné. C'est-à-dire ils n'ont pas compris que Jésus était en train de donner sa vie pour le salut du monde. Ils n'ont pas compris le sens spirituel de la croix, parce que Jésus, quand il est mort à la croix, il a livré sa vie pour payer nos péchés. Ils n'ont pas compris ça. Ils ont vu une défaite. Alors, nous ne comprendrons pas toujours quand Dieu nous conduit. Il faut être assez humble. Il y a des passages que nous allons traverser que nous ne comprenons pas. Et nous disons, mais pourquoi, Seigneur, telle chose m'arrive? Pourquoi tu n'as pas répondu? Pourquoi le Seigneur a résisté dans telle ou telle situation? Eh bien, nous devons accepter que nous devons suivre le Seigneur Jésus, même si nous ne comprenons pas ce qui arrive. Les disciples n'ont pas compris, ils ont abandonné. Eh bien, frères et sœurs, même si nous ne comprenons pas, nous ne devons pas abandonner et lâcher la main du Seigneur. Et ça nous arrivera dans notre vie chrétienne, des incompréhensions, des déceptions, des chocs, mais cela, en aucun cas, ne nous fera lâcher la main du Seigneur. Et ça, c'est une détermination. Un troisième verset, c'est 2 Timothée 4,10, « Ceux qui abandonnent maintenant le service. Car Démas m'a abandonné, c'est Paul qui parle ici, par amour pour le siècle présent, il est parti pour Thessalonique. » Quand on parle de Démas, ce n'est pas juste un chrétien de l'Église lambda, c'est quelqu'un qui était un responsable spirituel avec Paul, un compagnon de service, quelqu'un donc qui était dans les leaders. Et il était au service. Mais le service exige certains sacrifices. On ne peut pas servir Dieu de manière légère. Et il y a un prix à payer pour servir le Seigneur. Il faut être prêt à le payer, car nous devons servir le Seigneur. Mais Démas a payé le prix jusqu'à un certain point, et puis ça lui a coûté trop cher à un moment donné. L'amour du monde a repris le dessus. Il a préféré suivre le monde, donc par amour pour le monde, le siècle présent, par amour pour les facilités du monde présent, parce que c'était trop dur à un moment donné, eh bien il a quitté sa position de service, il a quitté son ministère, il était compagnon de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il est devenu après? On ne sait pas, on n'entend plus parler de Démas. On espère qu'il est revenu dans les voies du Seigneur, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'était vraiment un croyant, il était serviteur dans la maison de Dieu et il a abandonné sa position parce que l'attraction du monde était plus forte dans sa vie que son amour pour Dieu. Et ça, c'est un vrai problème sur lequel nous devons veiller, c'est quand l'amour du monde devient plus fort que l'amour de Dieu dans notre vie. Et là, ça a des conséquences, Eh bien, c'est que nous nous éloignons de Dieu et nous lâchons l'œuvre de Dieu. Peut-être avait-il la peur de certaines persécutions, peut-être craignait-il qu'en suivant l'apôtre Paul, il y aurait des problèmes, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a lâché son service. Un autre a été éprouvé, c'est le jeune homme riche qui vient vers Jésus en disant « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Il est plein de bonnes dispositions, il veut suivre le Seigneur, mais il va vite abandonner. Quand Jésus lui dit « Bien, si tu veux me suivre, tu vas, tu vends tout ce que tu possèdes, tu le donnes aux pauvres, et puis viens et suis-moi. » Mais son amour pour l'argent était plus fort que son amour pour Jésus. Donc il a préféré prendre du recul, abandonner à ce moment-là, ne pas s'engager, parce qu'il a été éprouvé dans un point sensible de sa vie, ou peut-être pour lui c'était une idole, peut-être qu'il avait quelque chose à régler du côté de son cœur par rapport à l'argent. C'est Jésus qui dit que c'est mammon, c'est une idole, c'est quelque chose qui peut dominer dans notre vie. Et donc ce jeune homme qui était riche et qui aurait pu suivre Jésus, ce n'était pas la richesse qui l'en empêchait, c'est plutôt son amour de l'argent qui l'a bloqué. Et ainsi, il a préféré retourner dans ses activités loin du Seigneur. Autre chose qui est parfois abandonnée, c'est les assemblées. Dans Hébreux chapitre 10, verset 25, c'est aussi un avertissement de l'auteur aux Hébreux. « N'abandonnons pas notre assemblée. » C'était des chrétiens qui avaient tendance à abandonner, à négliger les rassemblements, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc l'abandon des assemblées, ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau, c'est quelque chose qu'on trouve déjà dans la première Église parce qu'il y avait des chrétiens qui étaient faibles sur le plan spirituel et qui prenaient du large par rapport au rassemblement de l'Église et préféraient se tenir à distance. Mais quand on regarde la parole, on voit que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Jésus a voulu que nous nous rassemblions ensemble pour former l'Église. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est remis en question avec les nouvelles technologies, on a les églises virtuelles, les églises en ligne, on est à la maison, on peut suivre des cultes un peu partout. Alors c'est très pratique quand on est malade et qu'on ne peut pas se déplacer, mais ça a aussi un effet, on va dire pour certains, de se dire j'ai plus besoin de me rassembler finalement avec les autres puisque j'ai le même culte sans être présent. Alors c'est un petit peu faussé parce que, en tout cas, ce que Jésus a voulu, c'est qu'on se rassemble les uns les autres et pas qu'on soit à distance, derrière des écrans. La pensée de Dieu, c'était « je bâtirai mon Église, nous sommes des pierres vivantes rassemblées pour former un édifice spirituel ». Et le rassemblement des personnes, c'est ça en fait le sens premier de l'Église. Quand on dit « ecclésia », qui a donné le mot « église », « ecclésia », c'est le mot original en grec, ça veut dire « appeler hors d'eux », appeler à se rassembler dans un même lieu, une même localité pour former le peuple de Dieu. On côtoie des caractères différents. Vous voyez, l'Église, ce n'est pas virtuel. L'Église, c'est la réalité. On a des caractères, on a des tempéraments, on se côtoie les uns les autres. C'est fortifiant, puis des fois, c'est un petit peu blessant. C'est ça, l'Église aussi. C'est exercer le fruit de l'esprit. Dans l'Église, vous pouvez exercer la maîtrise de soi, par exemple. Ça, c'est bien dans l'Église, la maîtrise de soi. La patience. Combien de fois il faut être patient dans l'Église? Mais c'est vrai que tout ça, ça se vit dans le corps de Christ. Mais l'Église, c'est extraordinaire. L'Église, c'est le rassemblement du peuple de Dieu avec toutes ses différences. Et c'est là où on apprend à s'aimer les uns les autres avec nos différences. Peut-être vous avez été déçu par un chrétien ou une chrétienne, mais ça, c'est inévitable. Il n'y a pas d'Église où il n'y a pas une déception quelque part. Mais par contre, nous pouvons aimer les frères et sœurs et passer par-dessus nos différences. Alors là, on vit l'Église. Quand on arrive à s'aimer et on n'est pas d'accord, on ne pense pas la même manière, on a des avis complètement différents, on a des personnalités opposées, mais comme on a le même Seigneur, on s'aime par-dessus tout et on forme l'Église de Jésus-Christ. C'est ça l'Église. Ça, c'est le cœur de l'Église. Regardez ce que Jésus dit dans Jean 13, 34. « Je vous laisse un commandement. » Je vous donne un commandement nouveau. C'est Jésus qui parle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Si on arrive à mettre en pratique ce verset, on va passer par-dessus un grand nombre de difficultés. Mais si on n'est pas rempli de l'amour du Seigneur, comment voulez-vous vivre l'Église? Ce ne sera pas possible. Donc prions le Seigneur pour mettre en pratique cette belle parole. Aimez-vous les uns les autres. Entre parenthèses, ce n'est pas un conseil que Jésus nous donne, mais c'est un ordre. Il parle d'un commandement. Donc, je dois aimer mon frère, je dois aimer ma sœur. Oui, même si elle est différente, il est différent. Il ne pense pas comme moi, ce n'est pas grave. On va s'aimer les uns les autres parce que c'est la volonté de Dieu. Et ça, c'est la maturité spirituelle. Quand on est bébé spirituel, on dit « Ah, j'aime pas, je m'en vais ». Ça, c'est bébé spirituel. Mais quand on est mature, on dit « Je suis pas d'accord, mais on va travailler ensemble. On va avancer ensemble pour l'œuvre de Dieu ». Et c'est ça, les frères et sœurs, s'aimer les frères et sœurs, c'est aimer les frères et sœurs que Dieu nous a donnés. Nous sommes des frères et sœurs en Christ. Jésus dit « Vous devez les aimer comme je vous ai aimés ». Comment est-ce que Jésus nous a aimés ? D'un amour inconditionnel, on ne le méritait pas et on n'était pas aimable. Donc, nous devons aimer nos frères, nos sœurs de la même manière que Jésus nous a aimés. Donc, le défi est très élevé et il nous faut prier le Seigneur d'être rempli de son amour. C'est comme ça qu'on vit l'Église. Un autre élément, c'est la foi qu'on peut abandonner dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. La foi ici, c'est comme un feu qui s'entretient, qu'on doit toujours entretenir dans notre cœur. Et si on ne veille pas, la foi diminue. Quand la foi baisse, ben, on peut abandonner la foi. Et Paul dit ailleurs que certains ont même fait naufrage par rapport à la foi. Donc s'ils ont abandonné la foi, quelques-uns ont abandonné la foi, ben c'est qu'à un moment donné, ils avaient la foi, mais ils l'ont délaissée. Et certains, même, on a vu cela, ils avaient tellement la foi, ils ont parlé du Seigneur, ils ont amené des personnes à l'Église. Ces personnes se sont converties et elles ont marché avec Dieu, mais ceux même qui les avaient amenés, ils ont lâché la main du Seigneur et sont retournés loin de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont abandonné la foi. Alors que ceux qu'ils avaient ramenés, comme ils ont entretenu la foi, ils sont toujours là. Ils sont toujours fidèles. Ils marchent dans les voies de Dieu. Vous voyez, la seule différence, c'est est-ce qu'on va entretenir la foi ou pas. C'est ça qui va faire qu'on va durer dans la vie chrétienne. Le problème, c'est si vous abandonnez la foi, le texte dit, quelques-uns abandonneront la foi, qu'est-ce qui va se passer? Si vous abandonnez la foi, vous allez vous attacher à d'autres doctrines. Et ces doctrines sont mauvaises. Ce sont des doctrines même de démons, il dit dans la parole de Dieu. Ce sont des mauvaises doctrines parce que derrière l'athéisme, derrière toutes ces doctrines qui disent que Dieu n'existe pas, que ça ne sert à rien de croire, que tout le monde est venu par hasard, eh bien, il y a des esprits séducteurs qui encouragent les gens à ne croire en rien, à ne pas croire en Dieu et à ne pas se confier en Dieu. Mais 1 Jean 5, 19 dit ceci, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Il y a des esprits séducteurs, ils encouragent l'athéisme, ils encouragent la rébellion, mais nous, nous sommes de Dieu. Nous avons la foi et nous devons l'entretenir parce que le monde ne fera rien pour entretenir cette foi. Donc quand vous affirmez que Dieu n'existe pas, en fait, vous vous discutez avec un athée, il va vous dire ben, « Dieu n'existe pas ». Mais quand il vous dit « Dieu n'existe pas », c'est une croyance. Pourquoi c'est une croyance ? Parce qu'il ne sera pas capable de prouver que Dieu n'existe pas. De même que nous, on ne peut pas prouver que Dieu existe. Un athée ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas. C'est une question de croyance. Nous, nous croyons que Dieu existe. Nous le croyons, nous le ressentons, nous le vivons. Pour nous, c'est réel. Mais pour un athée, ben lui, il croit avec sa croyance à lui que Dieu n'existe pas. Mais c'est une forme de foi à l'envers. C'est une croyance renversée. Donc, il croit dans le mauvais sens. Et en fait, quand on abandonne la foi, on va se retrouver dans une fausse croyance, une croyance inversée, comme ces non-croyants qui ne croient pas dans l'existence de Dieu. Nous, nous sommes dans le combat de la foi. C'est pour ça que nous devons nous attacher à la vraie parole, à la foi. Et on a un exemple d'Étienne dans la parole, dont il est dit qu'il était plein de foi et d'Esprit Saint. Voilà. Vont être, frères et sœurs, des chrétiens remplis de foi et d'Esprit Saint. Maintenant, un troisième point, c'est les raisons de l'abandon de Dieu. Une première raison, c'est d'abord les épreuves de la vie. Dans Luc chapitre 8, verset 13, c'est Jésus qui parle. « Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. » Les autres évangiles parlent de tribulation, de persécution. Alors nous serons éprouvés aussi dans notre engagement avec Dieu. Si vous avez reçu la parole, c'est très bien parce que c'est déjà le processus de la vie qui a commencé, gloire à Dieu. C'est la première étape. Mais regardez ce que Jésus dit. Il ne suffit pas de recevoir la parole, en fait. Il faut des racines. Ces racines-là, ça va vous donner la solidité spirituelle. Si vous avez juste reçu la parole, mais vous n'avez pas travaillé les racines, ben, Jésus dit, ils vont croire pour un temps, et puis ils vont succomber lors de l'épreuve. Mais si vous avez développé les bonnes racines, c'est-à-dire vous êtes fondé en Christ, vous avez creusé dans la parole, vous êtes attaché au Seigneur, vous n'abandonnerez pas quand viendront les tribulations. Ça, c'est un avertissement pour développer des racines spirituelles. Autre raison de l'abandon, la deuxième raison, c'est les échecs. Nous voulons bien faire, mais nous rencontrons tous des échecs. Et ça, c'est une raison d'être découragé et d'abandonner. On a l'exemple de ce père qui vient vers Jésus pour son fils. Alors, fils qui était animé d'un esprit de suicide, tantôt il se jetait dans le feu, tantôt il se jetait dans l'eau pour le faire périr. Et ce père a ramené cet enfant aux disciples pour qu'il prie pour lui, mais les disciples n'ont pas pu délivrer cet enfant. Et Jésus a prié et a chassé l'esprit qui animait cet enfant, et cet enfant a été guéri, libéré. Donc les disciples avaient rencontré un échec. Et quand on a un échec, ben, on est tenté d'abandonner. Mais le père n'a pas abandonné, il est allé voir Jésus et il cherchait toujours à ce que son fils soit délivré. Donc même si nous rencontrons des échecs, on a essayé une fois, deux fois, trois fois, même si ça n'a pas marché, il faut persévérer en tout cas dans les voies de Dieu. Pourquoi ? Parce que Jésus dit, il y avait une raison, c'est à cause de votre incrédulité et à cause que cet esprit-là ne sort que par le jeûne et la prière. Donc à force d'insister, on trouve les moyens d'en sortir. Vous voyez, quand un bébé apprend à marcher, il fait ses premiers pas, il va faire beaucoup de chutes au début. Mais on ne va pas le condamner parce qu'il a trébuché. On va le relever et il va faire encore un pas. Et au bout d'un moment, il va faire, c'est pas tout seul. Mais combien de chutes on a fait avant de pouvoir marcher ? Ben, ça, c'est les échecs. Donc les échecs, on en aura plein, mais on peut se relever et on peut apprendre à marcher comme un bébé finit par y arriver. Si les parents décourageaient ce bébé, s'ils l'empêchaient de marcher à ce moment-là, ben, ce petit bébé, ben, il serait découragé, il n'essaierait plus. Mais les parents vont tout faire pour l'encourager, pour qu'il puisse marcher. Alors nous devons comprendre que ces échecs ne sont pas la fin de toute chose, mais c'est un tremplin pour nous permettre d'avancer. Et puis une troisième raison de l'abandon de Dieu, c'est l'impression que Dieu ne répond pas, parce qu'on a prié et puis on n'a pas reçu la réponse, en tout cas la réponse attendue. On a envie d'abandonner parce que Dieu n'a pas exaucé comme on voulait nos prières, mais peut-être que nos prières n'étaient pas tout à fait conformes à sa volonté non plus. Dieu exauce les prières inspirées. Et si Dieu ne répond pas immédiatement, c'est possible aussi que Dieu réponde dans un temps différé. On a prié, on ne voit rien, et puis, à un moment donné, Dieu répond, mais quand il le veut. Ça, c'est apprendre à attendre dans la patience et dans la foi. C'est vrai que la patience, ce n'est pas notre qualité première, parce qu'aujourd'hui, on est tellement habitué à ce que tout aille très vite, avec les courriels Internet, à l'autre bout du monde, on reçoit tout de suite un message. Enfin, tout va très vite, tous les jours, tout le temps. Donc, patienter ne serait-ce qu'une journée, deux jours, un mois, ça devient quelque chose de pénible. Mais bon, Dieu nous fait apprendre la patience, comme il l'a fait pour Moïse. Il l'a rendu l'homme le plus patient de la terre. Si Dieu n'a pas répondu, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas répondre, ça veut dire qu'il faut continuer à rester dans la foi jusqu'à ce qu'il étende sa main et qu'il réponde. Ça, c'est notre patience éprouvée. Et puis, Dieu aussi peut ne pas répondre à notre prière parce que ce n'est pas bon pour nous. Il faut l'accepter aussi, ce n'est pas obligé que Dieu réponde à tous nos désirs non plus. Donc on doit accepter que Dieu est tout-puissant, qu'il est le créateur du ciel et de la terre et que nous, on est sur la terre et on doit être à son école. En conclusion, on voit que la tentation de l'abandon de Dieu, ben, elle existe. et nous devons être vigilants pour ne pas tomber dans ces pièges. Le tentateur, en tout cas, lui, il agit, on l'a vu, il s'approche, il désire nous faire lâcher la main du Seigneur, lâcher le service, retourner dans le monde, s'éloigner de Dieu. Nous, nous devons persévérer. Et puis, nous devons rejeter fermement toute idée d'abandon de Dieu, être de ceux qui tiennent jusqu'au bout, qui persévèrent jusqu'à la fin, dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, dans la foi, dans l'amour fraternel. Tout cela, c'est notre part. Voilà les enseignements pour nous garder de cette tentation de l'abandon, que Dieu nous garde dans sa main puissante. On va prier un instant. Merci encore pour ta présence, merci pour ta parole qui est pleine de bons conseils pour nous garder vigilants dans la voie qui mène au ciel, dans cette voie que tu as tracée pour nous, cette voie dans laquelle tu nous as attirés. Et nous voulons te bénir pour le si grand salut que tu as apporté dans nos vies, pour nos frères, nos sœurs que tu as mis autour de nous. Merci pour l'œuvre de Dieu, Seigneur. Nous te prions de garder chacun, de nous garder dans la foi, de ne pas permettre que quelqu'un abandonne la voie de Dieu, que quelqu'un se détourne du Saint Commandement, que quelqu'un s'égare par amour pour le monde présent comme Démas, mais que nous soyons tous vigilants les uns sur les autres, nous aimant les uns les autres, partageant la foi ensemble, notre amour pour le Seigneur. Je te prie d'encourager celui ou celle qui a été déçu, qui a été blessé, afin que ça ne soit pas une source d'abandon, mais qu'au contraire, il y ait vraiment toujours un retour à ta présence. Nous voulons toujours te mettre à la première place. Seigneur, oui, sois le centre de nos vies, dirige toutes choses dans nos vies, et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.